journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans le journal des auditeurs, l'émission où vous avez la parole. Pour participer, composez dès maintenant le 00 33 1 55 07 58 00. Aujourd'hui, dans le JDA, la révolution sur Internet. Le deuxième sommet des Africtivistes s'est tenu les 22 et 23 juin dernier à Ouagadougou, au Burkina Faso. Le thème de ce sommet était de la démocratie numérique en Afrique. Quel mécanisme de collaboration entre les gouvernements et les acteurs de la société civile? Souvent considérés comme des adversaires politiques par les pouvoirs qu'elle critique, la Ligue africaine des blogueurs et cyberactivistes pour la démocratie a voulu, avec ce thème, mieux expliquer son action, laquelle consiste notamment à dénoncer les atteintes aux droits et renforcer la démocratie grâce aux réseaux sociaux. Alors, qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de l'utilité des réseaux sociaux dans l'ancrage de la démocratie? Est-ce que vous utilisez Internet pour militer? Est-ce que vous commentez? Venez nous faire part de votre expérience. Nous en parlerons avec un des Africtivistes, et Abdelkarim Yacoub Koundougoumi, coordinateur du projet pour une alternance crédible au Tchad, Pacte, mais aussi un responsable de la division Afrique centrale d'Internet sans frontières. Je rappelle le numéro pour la participer, 00 33 1 55 07 58. 00. Avant cela, direction le répondeur d'Africa numéro 1 pour écouter quelques-uns de vos messages.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Bonjour, la sœur Hartmann. Bonjour, cher animateur de l'Africa numéro 1. Bon, je lance ce message-là aux autorités ivoiriennes à travers l'animatrice, la sœur Hartmann, qui anime l'émission. Depuis les intempéries qui ont secoué la ville d'Abidjan et la Côte d'Ivoire, disons presque entière, là. Donc, on n'a plus la chaîne ivoirienne, ça fait bientôt une semaine. Bon, peut-être c'est indépendant de leur volonté, bon, c'est-à-dire techniquement, mais on se pose la question, quand est-ce que la chaîne télévision sera remise en état? Parce que cette télévision, la télévision ivoirienne, la RTI, nous manque ici à Paris. C'est une chaîne qui est beaucoup suivie, et surtout, moi, je suis fanatique de cette chaîne-là. Donc, dites-nous, quand est-ce que tout va rentrer dans l'ordre? Quand est-ce que la chaîne RTI sera en état? Merci, au revoir.
Allô, bonsoir, moi, c'est M. Issa, je vous appelle de l'Allemagne. Je voulais intervenir sur l'inondation en Côte d'Ivoire. Je voulais simplement dire que, quelque part, nous sommes tous fautifs parce que, quand on nous dit... de construire des maisons qui ont les normes et tout, et les caniveaux qui sont là pour l'évacuation des eaux usées et tout. Et c'est sûr, c'est dans ces caniveaux qu'on verse des ordures, c'est là-bas qu'on verse de l'eau, et on bouche, et on nettoie pas, et on construit des appartements de fortune là-dessus. Qu'est-ce que le politique va venir faire avec ça? C'est pas le politicien qui va venir nettoyer les caniveaux pour nous, hein. C'est nous-mêmes qui sommes responsables. Et ce qui nous arrive, c'est nous, c'est le peuple. Ça n'a rien à voir de politique, d'homme politique ou de quoi. C'est nous qui sommes d'abord les premiers responsables. C'est nous qui vivons là. C'est nous qui ne devons pas d'abord la responsabilité de nettoyer nos caniveaux devant nous. Mais quand on les bouche avec des ordures ménagères, il faut qu'on à quoi devons nous attendre? Alors voilà mon message que je voulais dire. Donc je remercie tous.
Bonjour, chers amis africains, chers amis noirs tout court, les noirs de toute l'Afrique. Franchement, je suis en colère aujourd'hui, j'aimerais annoncer un truc. Il y a une radio de la place que tout le monde connaît, qu'il y a un certain Jim Goldaden qui intervient sur cette radio. Puis il y a deux journalistes qui sont Alain Marchal et Olivier Trochot. Qui parle chaque fois des mal dans l'Afrique. Il parle toujours des trucs d'Afrique qui est faux, qui n'est pas vrai, qui se dit journalistes qui ne connaissent même pas la France. Mais vraiment, 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 il est temps que nous, les Africains, on s'est réveillés. Cette radio, d'ailleurs, je vais vous donner le numéro, 3216. Il faut que nous, les Africains, il faut qu'on se réveille maintenant. Parce qu'on ne peut pas laisser des gens nous parler de mal tout le temps, nous parler des trucs qui ne sont même pas vrais. Alors que si on va à l'Afrique, c'est l'Afrique qui fait nourrir la France. Et puis, ils sont là à nous insulter, on paye nos impôts, tout ça là, ici.
Ouais, chers amis africains, Jim Junga, je reviens parce que l'heure est quand même assez grave. Concernant la situation des migrants, hein, on vous parle des migrants, on vous parle des migrants, 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 mais la réalité qu'il y a des réunions qui se tiennent ici en Europe où on parle des migrants, on parle de créer des centres de rétention comme des camps de concentration dans les pays comme la Libye. Et nous savons que c'est là où s'est passé le système d'esclavage que les Libyens ont modernisé. Au Maroc, peut-être en Algérie, mais les Algériens vont certainement refuser. Et donc voilà, en Tunisie, etc. Et si les gens passent, on crée des centres ici où on reçoit tous les gens qui arrivent, on crée des centres de rétention, c'est-à-dire des centres où, entourés de barbelés, les gens seront mis à l'intérieur. On nous dit plein de choses dans ce sens, mais au fait, il y a une solution qui est simple. Il faut commencer par arrêter les contrats léonins qui imposent des conditions inacceptables aux Africains. Deux, il faut impérativement laisser les pays africains se développer par des gens compétents qui mettront en place des régimes démocratiques forts. Jim Djunga, merci.
Chers auditeurs et chères auditrices, depuis hier, les autorités saoudiennes ont autorisé les femmes saoudiennes à conduire des voitures, des camions, des motos, des mobylettes. Je suis très content pour ces femmes. Mais quant à l'habillement, je ne pense pas que la femme saoudienne peut porter des pantalons, des jupes, des robes en Arabie Saoudite, peut-être à l'étranger. Il y a quelques mois, au Soudan, les autorités soudanaises ont arrêté une dizaine de femmes qui portaient des pantalons. Chacune de ces femmes devra être fouettée. Chacune a reçu une quarantaine de coups de fouet. Je pense que les femmes saoudiennes ne seront pas autorisées à porter des pantalons, peut-être à l'étranger. Je vous remercie.
Oui, bonjour Gédéa. J'ai un problème là que je n'arrive pas à comprendre à Douala Bouna Moussa Diraba. Il y a le drainage que la Maïtu avait laissé pour faire passer, s'il y a un problème, on peut peut-être survenir en passant par ce drainage. Et ce drainage, c'est tout juste derrière la sous-préfecture de Koton. Bon, je ne sais pas si c'est le sous-préfet qui est en train de vendre ce drainage pour que les gens puissent construire là-dessus, sur le drainage. Et quand il y aura des problèmes, je ne sais pas comment ça va se passer. Parce que le drainage, là, c'est pour permettre qu'en cas de problème, on peut circuler là-bas tranquillement pour résoudre tous ces problèmes. Mais le drainage, ils sont en train de construire là-dessus, tout juste derrière la sous-préfecture de Koton. Je ne sais pas si c'est le sous-préfet qui est en train de vendre ce drainage ou c'est le directeur de la Maïtu. On n'arrive pas à comprendre. À bon entendeur, salut.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages aujourd'hui dans le journal des auditeurs. La révolution sur Internet. Retour sur le deuxième sommet des Africtivistes qui vient de se clôturer à Ouagadougou. Pardon, nous en parlons avec l'un des participants, Abdelkerim Yacoub Nkoundougoumi, coordinateur du Pacte. C'est le projet pour une alternance crédible au Tchad, mais aussi responsable de la division Afrique centrale d'Internet sans frontières. Abdelkerim Yacoub Nkoundougoumi, bonjour.
Bonjour Madame Hartmann,
Merci.
plaisir de vous retrouver.
C'est un plaisir toujours partagé, mon cher Abdelkarim. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on va parler un peu voilà, de cette ligue des blogueurs et africtivistes et activistes, cyberactivistes africains. Le thème de ce deuxième sommet était de la démocratie numérique en Afrique. Quel mécanisme de collaboration entre gouvernement et acteurs de la société civile? Peut-on dire que 2 ans après la création de la Ligue et face aux difficultés qu'ont rencontrées certains cyberactivistes, que finalement ce thème était aussi une main tendue vers les gouvernements africains qui vous considèrent trop souvent comme des adversaires politiques, mon cher Abdelkarim?
Oui, en fait, l'idée, c'est un changement de stratégie pour pouvoir justement améliorer le climat entre les activistes, la jeunesse qui vraiment aujourd'hui s'approprie de cet outil-là, et pas seulement la jeunesse africaine. Aujourd'hui, le numérique, le digital, c'est en train de révolutionner le monde. Donc, l'Afrique doit être au rendez-vous de ce monde aujourd'hui, comme la révolution industrielle a façonné le monde dont l'Afrique est exclue aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est en train de passer vers un monde digital, la globalisation digitale. Donc, on a compris que l'enjeu de cette révolution est énorme et que l'Afrique est en train de passer à côté à cause de certains pesanteurs politiques qui prévaut dans certains pays africains. Donc aujourd'hui, la métendue, c'est pas une métendue, mais c'est plutôt un appel à ces gouvernements-là de comprendre ce rendez-vous avec l'histoire ne doit pas être raté encore par l'Afrique à cause de leur vision ou de l'approche qu'ils ont du numérique. Aujourd'hui, beaucoup des États africains ont peur du numérique, ont peur du digital. Surtout les gouvernements où il n'y a pas encore un état de droit, où il n'y a pas la démocratie, où des gouvernements autoritaires ou dictatoriaux fermés ont décrété que le digital est peut-être l'outil qui les fait racheter. Donc ils font tout. Ils font tout pour diaboliser les activistes, pour diaboliser le numérique et même freiner la diffusion de cette nouvelle technologie auprès de leurs citoyens. Donc, notre approche à nous, c'était de dire, surtout aux gouvernements ou africains qui ont compris l'importance de cet objet, qui ont compris la stratégie des activistes, de dire, OK, on doit maintenant aller vers un dialogue. Un dialogue, et on va échanger avec ces gouvernements-là pour pouvoir justement porter la voix des web activistes africains auprès de leurs pairs pour leur faire comprendre que cet outil-là va au-delà de leur intérêt personnel et c'est vraiment l'intérêt du continent qui est en jeu.
Et peut-être même que cet outil-là peut servir leurs intérêts. On verra dans quelques instants la réaction de Roch Marc-Christian Kaboré, président burkinabé, à qui vous avez demandé justement de plaider votre cause auprès de ses pairs, sachant que lui-même, je ne vais pas dire que ce n'est pas lui-même qui a inséré, en tout cas la justice burkinabé a s'est intéressé, a mis en prison Naïm Touré, qui est également un activiste sur Internet. Vous nous direz ce que vous en pensez dans quelques instants. Abdelkerim, avant cela, on se tourne vers le standard. Je rappelle le numéro pour participer, 00 33 1 55 07 58 00. On va écouter Sékou. Sékou, bonjour.
Oui, bonjour madame, heureux de vous retrouver et bonjour à votre invité.
Bonjour à vous Sékou, merci de nous appeler. Vous êtes plutôt inquiet, vous, sur la liberté sur Internet, c'est ça?
Écoutez, moi je ne suis pas un membre du gouvernement, je suis plutôt, on va dire, un acteur économique.
D'accord.
Alors comment votre invité, sans entrer dans les détails techniques, peut me rassurer, moi, parce que sincèrement je suis inquiet. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec la déstabilisation d'un certain membre, du certain pays, aux élections présidentielles en Amérique. On a vu en France, la même chose s'est passée avec Macron. Des pays qui sont censés structurer, stables, qui ont quand même réussi à être attaqués par des cyberattaques. Et comment des pays africains peuvent lutter contre ça? Comment un pays africain qui n'a pas besoin de ça, qui est déjà déstabilisé par pas mal de choses, et en plus avec l'ethnocentrisme qui gagne du terrain en Afrique, est-ce que qui va être derrière pour contrôler tout ça? Moi, je suis vraiment inquiet et j'ai peur que on n'est pas prêt pour l'instant. Moi, j'estime qu'on n'est pas prêt pour l'instant. Il faut laisser le temps au temps. Et puis, mais par contre, je suis ouvert à toutes les solutions. Si votre invité peut m'expliquer qu'avec la main tendue au gouvernement, ils peuvent travailler pour avoir la main là-dessus, pour pas que le pays soit déstabilisé, pour que nous, on aimerait, en tant qu'acteur économique, on aimerait œuvrer sur un terrain stable, tout simplement. Voilà.
C'est intéressant ce que vous dites, Sékou. Restez à l'écoute. Je vais me tourner vers vous, Abdelkerim Koundougoumi. C'est vrai qu'il y a deux ans, au moment du lancement de la Ligue des Africtivistes, les réseaux sociaux, même au moment du printemps arabe, on se souvient, en 2011, les réseaux sociaux étaient perçus comme l'outil pour faire tomber des régimes, l'outil un peu merveilleux. Quelques années plus tard, on se rend compte aussi de la face cachée de ces réseaux sociaux qui, Sékou, faisait référence peut-être aux fake news durant la campagne électorale aux États-Unis ou ici encore en France. Est-ce que les africtivistes prévoient une sorte d'éducation aux médias? Qu'est-ce que vous pensez des inquiétudes de Sékou qui, lui, en tant qu'acteur économique, voit surtout le mauvais côté des réseaux sociaux?
Oui, je comprends très bien et on en a aussi échangé pendant ce sommet sur cet aspect du digital. La question maintenant est de savoir, faut-il faire l'autruche ou faut-il vraiment s'équiper pour affronter ces phénomènes? Ce n'est pas pour la première fois qu'une nouvelle technologie a pu déstabiliser le fonctionnement classique de société. On se souvient très bien avec l'arrivée de Telegram ou avec l'arrivée de machines à écrire, avec
la télévision aussi.
La télévision, à chaque fois, justement, on entre dans un changement de paradigme. Donc, l'intelligence voudrait que, au lieu de dire « c'est très dangereux, je reste dans mon coin, coupé du monde, je vais essayer de vivre en autarcie », ou bien de dire « ok, on prend comme ça arrive et on va se prémunir ». Donc, nous, on est dans une dynamique de dire « ok, on connaît les fake news ». On connaît les risques qu'il y a des sociétés africaines très sensibles sur les aspects dont il a évoqué de façon juste, ces aspects des pesanteurs ethniques et régionalistes et surtout les aspects politiques assez fermés dans des cercles fermés. Nous, on a dit, si nos gouvernements ont aujourd'hui des outils ou la compréhension possible de ces systèmes qui arrivent, ils seront mieux prémunis pour pouvoir prendre des législations ou même avoir des experts ou des personnes compétentes dans ce domaine-là pour pouvoir s'organiser et affronter ces phénomènes. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est ça le problème des pays africains. Aujourd'hui, les données des internautes africains, toutes les données des internautes africains sont sur le serveur à l'extérieur de l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique n'a pas aujourd'hui la capacité de pouvoir même contrôler, sécuriser tous nos données. J'ai dit même les données de notre opérateur économique qui dit tout à l'heure. Aujourd'hui, peut-être que le numéro de sa carte bancaire qu'il utilise pour pouvoir acheter des choses ne sont pas dans son propre pays, ils sont dans un autre pays. Aujourd'hui, que s'il achète quelque chose, tout se passe par l'extérieur avant que ça lui arrive. Donc, nous, on a dit, on peut même aujourd'hui pouvoir sensibiliser nos gouvernements, leur dire qu'aujourd'hui, ils doivent prendre aussi en charge que nos données des Africains là soient logées dans nos propres pays, sur notre propre continent, et qu'on ait la main dessus, et qu'on puisse justement aujourd'hui contrôler qui utilise, à quelle fin ils utilisent, et qu'est-ce qu'ils font avec. Si on n'a pas ces compétences-là, qui va le faire? On sera toujours contrôlé par les autres. Et si aujourd'hui les fake news, les États, par exemple l'Allemagne aujourd'hui, ils ont pris de lois, ils ont dit qu'aujourd'hui, s'il y a une fausse nouvelle, ils donnent 24 heures à la personne ou à aux plateformes qui gèrent ces informations-là, de les enlever dans les 24 heures, sinon ils seront soumis à des amendes et punis. Les États-Unis, c'est pareil. Ils ont pris des mesures législatives et très, très, très restrictives. Et nous, qu'est-ce qu'on a qu'on peut faire? Puisqu'on ne contrôle même pas ces serveurs, puisqu'on ne peut pas aujourd'hui avoir un rapport de force pour obliger ces plateformes-là d'écouter nos gouvernements. Aujourd'hui, quel pays africain peut dire à Facebook de faire quelque chose? Donc, le fait que les activistes prennent le devant pour dire qu'au lieu de dire « c'est très dangereux, on n'en veut plus », on dit non. Et le côté positif est tel que peut-être pour certains États qui sont très avancés, qui ont la capacité de pouvoir se prémunir, mais des États utilisent cet alibi-là, malheureusement, utilisent cet alibi pour dire « attention, c'est dangereux », pour encore réprimer davantage.
Alors justement, Abdelkarim, moi je voulais savoir, vous avez, c'est intéressant ce que vous dites, hein, quand vous parlez de sécurisation des données, hein, le fait que voilà, les données des Africains, des internautes africains finalement sont stockées à l'extérieur du continent. Est-ce que les dirigeants auxquels vous avez parlé durant ce sommet, et notamment le premier d'entre eux, Roch Marc-Christian Kaboré, président du Burkina Faso, étaient sensibilisés à ces questions? Ou est-ce que finalement vous les avez informés?
Oui. En fait, au début, ces gouvernements-là étaient surtout sur l'aspect de l'information, en fait. Ils disent que voilà, les informations que les gens utilisent ne sont pas vérifiées, c'est des fake news. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les gens sont plus sur l'aspect, le contrôle de l'information.
C'est
le contrôle de l'information et la crédibilité de ceux qui mettent cette information-là pour dire que si cette information-là n'est pas vraie, ça risque de déstabiliser notre société, notre politique. Donc, nous, on leur a dit, il n'y a pas que cet aspect.
L'aspect technique aussi.
L'aspect technique, l'aspect social, il y a l'aspect sécuritaire. Donc, eux, ils étaient, donc, comme vous a dit, ils ont arrêté notre camarade, et on l'a plaidé pour qu'on le libère. Et
Naïm Touré.
Pas seulement le Burkina. Il y a aussi le Kenya qui a pris des lois très, très restrictives, alors qu'un journaliste qui a mis des informations sur comment les agissements des soldats kenyans en Somalie, et du coup, il a été emprisonné, arrêté. C'est aussi en Ouganda où aujourd'hui, l'État a pris des décisions comme quoi qu'aujourd'hui, même pour utiliser WhatsApp, pour poster des articles sur Internet, il faut payer de l'argent pour le faire. Donc, tout cela ne contribue pas vraiment à la diffusion, à la maîtrise et à la maîtrise de ces outils-là par la jeunesse africaine, par ces entrepreneurs africains qui aujourd'hui ont besoin d'être connectés sur le marché mondial, d'être connectés dans la conversation mondiale. Aujourd'hui, on est isolé, l'Afrique est isolée. Aujourd'hui, Internet, c'est la conversation mondiale où tout se passe. Doit-on, pour des raisons de sécurité ou pour des raisons de contrôle de l'information, empêcher à cette jeunesse entreprenante, à cette jeunesse qui est en train de vraiment se prendre en main, parce que je crois que notre frère aujourd'hui, c'est businessman, il n'a pas attendu.
Il est toujours là, il nous écoute encore.
Voilà, Monsieur Sekou n'a pas attendu qu'il ait un travail dans le service public. Il n'a pas attendu que l'État lui donne un travail. Aujourd'hui, il s'est approprié, comme il a dit lui-même, ses projets. Aujourd'hui, il est en train de se débrouiller. Alors, il y a des millions de Sekou aujourd'hui en Afrique.
Alors justement, Abdelkarim, on va demander à Sekou, parce qu'il avait l'air un peu inquiet, si votre réponse l'a rassuré, Sekou. Vous êtes encore là ?
Non, oui, j'écoutais avec attention, c'est très intéressant. Et je suis rassuré à 80%. Les 20% restants, si vous me permettez, je pose une question subsidiaire rapidement. Ok, j'ai bien compris ce qu'il a dit. Donc, en fin de compte, il y aura une autorité qui va contrôler tout cela, les données, etc. Mais ne craint-il pas, à contrario, que cette autorité sous la main invisible d'un président qui veut aller renforcer son pouvoir, que ce soit, eh ben, manipule ces données aussi. Il y a aussi ce risque-là. Voilà. Mais je suis quand même en partie rassuré. Il a raison, on ne peut pas arrêter la marche, le progrès, effectivement. Mais vraiment, j'ai vraiment peur avec l'islamisme qui gagne.
Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre le paquet aussi sur l'éducation ? Ça, c'est valable dans tous les pays, hein, finalement, avec Internet, de l'éducation aux médias aussi, hein, pour savoir distinguer le vrai du faux, non ?
Exactement. Vous avez la solution. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Et c'est un travail qui commence maintenant, l'aboutissement sera plus tard. L'éducation, c'est la base. En France, c'est pareil. C'est pas que l'Afrique, c'est partout, l'éducation. L'Internet, comme vous l'avez bien dit, c'est un outil formidable. Mais c'est à double face. Voilà.
Tout à fait.
Ma question concernant le pouvoir qui va utiliser qui peut utiliser ça aussi contre, à l'inverse, pour manipuler, c'est possible. Parce que forcément, derrière, pour contrôler ces données-là, il y aura quelqu'un, automatiquement. Il n'y aura pas qu'une machine, il n'y aura pas qu'une autorité, il y aura quelqu'un. Et ce quelqu'un-là peut aussi amener la décision à sa faveur. Ça aussi, c'est un risque. Donc, c'est pour ça que je dis. Voilà, ça m'inquiète. Mais
d'ailleurs, votre inquiétude, Sekou, je vais la partager, puis on va laisser le temps à Abdelkarim de répondre. Elle peut concerner effectivement un homme, un président, comme ça, un mouvement mal intentionné, mais aussi peut-être des multinationales. Je pense au fameux GAFA, hein, de la Silicon Valley, Abdelkarim Kounougoumi. Comment garantir un Internet libre et finalement, et entre les mains de personne et de tout le monde.
Voilà, justement, c'est ça. Il faut bien que ce soit un processus. Le processus dans la libéralisation de l'Internet, la neutralité d'Internet, la sécurisation des données sur Internet et surtout la sécurisation des utilisateurs d'Internet et des internautes. C'est ça, c'est que nous, au niveau d'Affectivistes, on sait justement d'abord sur un. On a commencé à former 50 journalistes et activistes par pays, vous voyez. Là, depuis 3 mois, on a formé 500 acteurs, justement, d'utilisation de l'Internet. Donc là, on est en train de les former sur comment se sécuriser, comment crypter leurs données dans leurs échanges. Donc, l'idée, c'est dans la formation immédiate. Ça, c'est au niveau des producteurs d'informations. Mais aujourd'hui, on a constaté qu'avec Internet, les réseaux sociaux, les citoyens sont aussi devenus producteurs de données, producteurs d'informations. Donc, il faut former l'esprit critique des citoyens. Les citoyens africains ne sont pas des sous-citoyens. Les citoyens africains sont comme tous les autres citoyens. Aujourd'hui, si on donne une bonne formation à des citoyens, à des utilisateurs, comment avoir l'esprit critique? Ils ne vont pas juste croire quelque chose qui a été publié sur une page ou sur un blog. Ce ne sont pas des sauvages. Les gens, ils ont quand même la capacité d'analyser, de comparer. C'est pour cela qu'on a dit... Avec Internet, on a une pluralité de sources d'informations qui permettent aux citoyens de croiser les informations et d'en tirer les réponses. Ça mène aussi que les Africains ne vont pas aller s'entretuer parce que quelqu'un a dit qu'on a tué quelqu'un de l'autre ethnie et tout le monde se met le feu aux poudres. Sur la question du risque de manipulation gouvernementale de données, Alors, c'est très important ce qu'il a dit. Alors, c'est quoi la solution à cela? La solution, c'est qu'on doit justement se battre pour qu'il y ait des instances de régulation, non seulement nationales, il faut qu'il y ait aussi des instances de régulation continentales et sous-régionales. Si on a des institutions fortes, capables aussi, au-delà de l'UIT, l'Union internationale de télécommunications, mais des institutions africaines qui pourront aujourd'hui avoir aussi à peser dans ce processus, nous amènera justement d'indexer et de poursuivre justement des gouvernements, beaucoup de gouvernements. On a vu par exemple le gouvernement tchadien, le gouvernement togolais, le gouvernement congolais, le gouvernement de la RDC, beaucoup, tous ces régimes dictatoriaux, justement, non seulement ils bloquent Internet, non seulement qui empêchent la diffusion, mais aussi essayent de localiser les internautes et les poursuivre ou bien enfermer les journalistes qui ne sont pas dans leur façon de voir. Donc, tout cela, nous, on doit y travailler. C'est ça le travail des affectivistes, d'amener à ce que ces gouvernements-là ne puissent pas le faire.
On va remercier Sekou, pardon Abdelkarim, je voulais remercier Sekou qui était encore en ligne et lui dire au revoir, qu'il reste en ligne s'il veut. On a bien compris Abdelkarim, mais j'allais vous dire, finalement, quand on voit que l'une des puissances mondiales, c'est-à-dire la République populaire de Chine, contrôle massivement justement cette zone d'échange qu'est Internet, est-ce que ce n'est pas aussi, et quand on voit que les plus grands pays dans le monde aussi contrôlent cette zone-là, est-ce que ce n'est pas finalement difficile pour les États africains de faire valoir leur point de vue?
La prochaine guerre mondiale, c'est une guerre numérique entre les États-Unis et la Chine. La Chine a une façon de fonctionner qui est complètement différente, une façon de fonctionner des États-Unis différente. Et la Russie fait la même chose. Donc, l'Afrique est en train d'être le terrain de cette bataille numérique. Aujourd'hui, on est passé à un autre niveau. Et si on voit bien, ça je vous le dis, mais vraiment, que toutes les technologies de contrôle et de surveillance vendues en Afrique sont souvent vendues justement par ces États comme la Chine et d'autres qui contrôlent à des États africains qui ne sont pas fréquentables et qui ne sont pas démocratiques. Donc c'est à nous aussi justement de se battre pour que ces transferts de technologies de surveillance et de contrôle du côté de la Chine ou d'autres pays à nos États ne puissent pas être effectifs parce que les États-Unis de l'autre côté aussi sont des États quand même, la France ou l'Union européenne, sont des États qui sont pour un Internet ouvert, pour un Internet
sécurisé. Oui, voilà, effectivement, voilà. Je mettais les deux sur le même plan, mais c'est parce qu'effectivement, je pensais au GAFA et à la Silicon Valley.
Voilà, exactement. Donc, nous, on ne doit pas être les objets de tout cela. L'Afrique doit être un acteur en tant que tel. C'est là notre lutte des affectivistes. On n'a pas à subir, on n'a pas qu'on subit la bataille ou la guerre entre ces puissances-là. L'Afrique doit faire partie, même si c'est du côté du Brésil ou d'autres pays non alignés, de l'Inde aussi qui est en train de beaucoup aider l'Afrique. Le Brésil est en train d'aider l'Afrique pour pouvoir justement avoir l'alternative à cela. Quelle est l'alternative? Faut-il juste laisser faire ou bien l'Afrique doit avoir sa propre voix, ses propres partenaires et construire l'Internet africain de demain?
Une dernière question, Abdelkarim Kounougoumi, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Avec ce rituel des sommets, ne craignez-vous pas, vous, africtivistes, de vous institutionnaliser finalement et de perdre en efficacité? On connaît les multiples sommets et forums qui se déroulent régulièrement sur le continent. Parfois, c'est aussi le ministère de la parole. Est-ce que, je répète ma question, avec ce rituel des sommets, vous ne craignez pas de vous institutionnaliser?
Au contraire, je ne sais pas si vous voyez, de 2015 aujourd'hui, on est en 2018, donc ça fait 3 ans. Après 3 ans, et on s'est retrouvés pour faire le bilan. En fait, la question, c'est qu'on est dans un monde qui va tellement vite, Madame Hartmann. Il faut absolument, même nous on a trouvé que c'était hyper long, normalement c'est tous les 2 ans qu'on doit se retrouver pour faire le bilan et faire une mise de point et améliorer notre approche, construire ensemble et avancer. Donc maintenant on va se retrouver l'année prochaine au Kenya, on doit être un peu au rythme du monde, Madame Hartmann. L'Afrique, donc aujourd'hui si vous voyez de 2015 et aujourd'hui, la donne a complètement changé. Ce qu'on en avait parlé en 2015, mais c'est complètement obsolète. On a parlé de choses aujourd'hui, à Ouaga. À Ouaga, on a parlé aussi d'autres choses qu'on n'a pas évoquées tout à l'heure. La femme africaine, la fille africaine, la mère africaine. Aujourd'hui, les femmes africaines sont en train de s'approprier de cet outil-là. Les femmes africaines, grâce à cet outil-là, sont en train d'aller dans l'économie numérique, sont en train de produire, sont en train de vendre, sont en train de couper l'espace. Et là, c'est quelque chose d'énorme. On a même dédié quand même la moitié de ces sommets-là à la femme africaine et on doit les encourager pour que aujourd'hui, quand on avait pratiquement 60% des Africains sont des femmes. Donc, il faut maintenant que cette force économique puisse être libérée, que la femme africaine puisse aussi utiliser ces outils-là, de se libérer du patriarcat et de la pesanteur socio-culturelle qui fait que cette femme aujourd'hui est réduite aux tâches ménagères, réduite à la reproduction sociale, de changer et de prendre aussi sa part et avoir sa place dans la construction de l'Afrique de demain, autre que dans les tâches que l'histoire lui a dédiées.
C'est l'occasion de rendre hommage, Abdelkarim, si vous permettez, à une figure des Africtivistes. C'était Anna Gueye qui nous a quittés malheureusement il y a quelques temps. C'était une grande figure de votre mouvement.
Vraiment, Anna Gueye, elle était la cheville ouvrière, elle était à la base de tout. Je crois qu'elle était morte d'épuisement. Elle ne dormait plus, je vous jure. Cette femme, elle dormait au maximum 1-2 heures par jour. Elle était tellement... Aujourd'hui, l'esprit Anna Gueye, justement, c'était cela. On a donné des prix à des jeunes qui ont mérité. Le prix Anna Gueye, c'était pour que cet esprit-là continue à inspirer, continue à nous habiter, continue à nous orienter et nous donner le courage de mener vers cette Afrique dont elle a eu la vision. Vraiment, à chaque fois qu'on se retrouvait, on a cette chair de poule quand on pense à elle. Et il y aura, je crois, que dans les années à venir, beaucoup d'Anna Gueye.
On le souhaite. On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Abdelkarim, Yacoub Koundougoumi, d'avoir été notre invité, je rappelle, entre autres notamment, puisque vous avez de nombreuses casquettes, que vous êtes coordinateur du projet pour une alternance crédible au Tchad, c'est le pacte, mais aussi responsable de la division Afrique centrale de l'ONG Internet sans frontières. Merci à tous de votre participation. On se donne, cette émission sera rediffusée ce soir aux environs de 19h20, bien sûr. On se donne rendez-vous demain, mardi, pour une nouvelle édition du Journal des Auditeurs. Je vous propose demain de parler du Zimbabwe à l'approche des élections et puis après cet attentat qui a visé le président Emmerson Mnangagwa. N'hésitez pas à vous inscrire en nous laissant un message sur le répondeur au 01 55 07 58 05 ou par mail jda@africa1.com. En attendant, prenez grand soin de vous et des autres, c'est important, à l'écoute d'Africa numéro 1, la seule, l'unique, la vraie radio africaine. À demain.